puis nous, on est sur un caviar où on a une qualité quand même très, très pointue. Et le tri du grain, le tri des impuretés, le tri est moins facile à faire ici sur place parce qu'on n'a pas les, on n'a pas les techniques. Hein. Donc nous, tous nos caviars sont affinés à Paris. Hein.
Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Est-ce que tu te souviens d'une mauvaise histoire où tu n'as pas dormi le soir où c'était détruit ?
Ça arrive régulièrement hein, quand on a de nouveaux produits. Hein, ce sont des produits. En général, on est un peu plus tranquille quand les produits ont fait une dizaine de passages à la douane. Parce qu'on sait qu'ils sont un peu plus reconnus. Mais parfois, ils peuvent avoir un contrôle inopiné. Et puis, on a des contrôles sanitaires avec.
Particulièrement la charcuterie ou tout ce qui est viande. Là,
c'est plus compliqué.
Ils sont particulièrement attentifs. Pour quelle raison, est-ce que tu sais
Alors, je pense que Canada protège aussi un peu son marché, les choses. Et puis, c'est un processus de fabrication qui est différent. Les contrôles sont différents, même si en Europe, c'est quand même hyper contrôlé. Je pense que c'est autant contrôlé qu'ici. Mais les processus sont sont complètement différents de fabrication. Donc je pense que c'est cette réticence-là. Et puis parfois, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. On a une culture, nous, on a une culture produit hein, chez nous. Hein. On va donner un exemple qui est très simple. La charcuterie chez nous, elle est pendue dans les magasins à température ambiante. Ici, si vous faites ça, température, elle n'est pas respectée. Donc la procédure, c'est de détruire la marchandise. Elle doit être transportée, elle doit être conditionnée, elle doit être dans des températures qui sont des températures minimum et respectées, quoi.
Est-ce que c'est toi, Eric, ou toi, Elliot, qui réceptionnait la marchandise des douanes et qui genre discutait avec les douaniers en cas de questions ?
Alors oui, pas toujours en fait, mais parfois oui. Quand c'est des produits un peu particuliers où les gens ont besoin de savoir en fait, on va parler de l'ormo par exemple, hein, qui est un produit quand même très particulier, ils n'ont jamais vu, ou quand des grands chefs se déplacent, comme ce qu'on a connu à Montréal en Lumière. On a des produits qui sont différents de ce qui rentre d'habitude. Ils ont des demandes différentes. Là, forcément, ça pose questionnement à la douane, quoi. Je pensais tout à l'heure, en rigolant, on parlait de notre turbo qui bouge, qui respire dans la caisse. Pour eux, c'est un peu spécial. On a des turbos qui sont dans des caisses très plates avec un peu d'eau. Ça leur permet encore de respirer à leur arrivée ici au pays.
Et donc, tu dois connaître les douaniers, c'est toujours un peu les mêmes, non, je suppose ?
Alors, pas toujours. Il y a des périodes dans l'année où il faut éviter d'apporter ces produits-là, tout simplement parce qu'il y a des changements d'équipe. On sait que, par exemple, pendant les vacances, on évite certains produits compliqués, parce que parfois, on a des jeunes douaniers qui connaissent un peu moins.
Et les jeunes douaniers, c'est les plus dangereux, il faut le dire.
Oui, parce qu'ils connaissent pas, tout simplement.
Ils veulent faire de l'excès aussi, ils connaissent pas.
Ils connaissent pas, donc par mesure de sécurité alimentaire, ils vont dire « Oups, non, on ne connaît pas le produit ».
Donc genre pendant les vacances de printemps, pendant la relâche, les douaniers plus anciens qui ont le choix des vacances, j'imagine, par leur ancienneté, prennent des jours de repos pour aller à Cuba ou n'importe où. Donc c'est le moins expérimenté. Donc là, toi, tu sais, tu vas calculer qu'il ne faut pas apporter de trucs bizarres pendant cette période-là.
Oui, tout le mois de décembre, par exemple, on va éviter, parce qu'on sait que les douaniers sont très pris. Donc là, ça évite les bêtises, ça évite aussi les retards dans nos arrivages de produits.
C'est compliqué alors, parce que décembre, c'est la période la plus achalandée.
Donc en général, on va les faire venir avant. On va commencer à faire les premiers arrivages à l'automne ou des mois de septembre pour huiler justement ce processus. On va éviter aussi des périodes où il y a des arrivages d'autres pays qui sont très importants. Je pense dans des périodes, le Nouvel An chinois par exemple, en début d'année, où il y a des rentrées de produits un peu plus particuliers, donc là on évite. Quand il y a le Grand Prix aussi, il faut savoir que souvent c'est très perturbé, hein. Il y a énormément d'avions, de logistique qui arrivent, donc ça touche.
Ça ralentit les contrôles.
Exactement, exactement. Donc ils ont un peu moins le temps, donc il y a des périodes dans l'année où on fait très attention à ça.
Oui. Pour le Grand Prix justement, je suppose que, étant donné qu'il y a une clientèle vraiment particulière, là, tu fais venir plus de caviar en avance, par exemple.
Exactement, donc on fait rentrer nos produits. Exactement, on fait rentrer nos produits un petit peu avant, pour avoir une petite marge de sécurité, mais on sait que en général, une dizaine ou une quinzaine de jours avant le Grand Prix, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord il y a beaucoup d'avions, puis il y a énormément de logistique.
Hein. Ça se conserve combien de temps le caviar une fois que on l'a reçu, tu l'as reçu?
Entre 2 et 6 mois, selon les variétés de caviar. Il y a des caviars qui maturent un peu plus vite que d'autres. Il y en a qu'on essaye d'avoir un petit peu moins en stock. Ils vieillissent un peu moins bien, tout simplement. Et puis après, il y a des caviars qui acceptent un peu plus de durée, donc c'est un peu plus facile pour nous.
Hein. Est-ce que tu t'intéresses au caviar québécois, par exemple? Comment tu fais la veille sur... Parce qu'il y a aussi des tentatives de production de truffes québécoises aussi.
Bien sûr.
Est-ce que tu te renseignes? Comment tu restes au contact de ce qui se passe au Québec versus ce que tu importes?
Alors, on a des projets hein, de caviar ici, on reste toujours un peu discret là-dessus, mais on a des intentions sur le caviar qui est produit ici. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir que ce sont des esturgeons sauvages en général, qui vivent ou dans les lacs ou dans les rivières sur Montréal ou alentour. Donc, il y a différentes espèces d'esturgeons, souvent les gens ne le savent pas. Donc, il y a l'esturgeon noir et l'esturgeon jaune qui produisent de l'œuf. Alors c'est compliqué, hein, parce que justement, toujours pour des raisons sanitaires...
Tout ce qui est sauvage au Québec, normalement c'est interdit.
Exactement, et puis nous on est sur un caviar où on a une qualité quand même très, très pointue. Et le tri du grain, le tri des impuretés, le tri est moins facile à faire ici sur place parce qu'on n'a pas les techniques. Hein. Donc nous, tous nos caviars sont affinés à Paris. Puis nous on est sur un caviar où... On a une qualité quand même caviarie à la manufacture, très pointue. C'est plus compliqué de le faire ici. Le tri du grain, le tri des impuretés,
la partie pêche, c'est pas si clair non plus.
Moins facile à faire ici sur place.
Certains types de pêcheurs qui peuvent le faire seulement.
On n'a pas les techniques. Hein. Nous, tous nos caviars sont affinés à Paris. Au niveau réglementation, c'est pas facile à mettre en place en tout cas.
Tu viens de dire affiner le caviar, ça consiste en quoi?
Il y a deux solutions. Soit vous produisez vos œufs et vous mettez dans le sel, vous mettez dans des boîtes. Que font beaucoup de gens. Et autrement, il y a des grandes maisons de caviar qui ont un processus un peu différent, c'est-à-dire que la base est la même, mais il y a un affinage qui se fait entre deux. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait dans les frigos, il y a un travail qui se font par des maîtres affineurs.
Mais toujours avec du sel.
Toujours avec du sel, bien évidemment, mais qui va prendre du temps et qui vont travailler le caviar pendant de nombreux mois pour pouvoir avoir une qualité optimum.
Est-ce que ça se déguste frais le caviar sans enfin quand tu pêches quand tu récupères les œufs, est-ce que tu peux le manger? Est-ce que c'est bon ou ça?
Il est mangeable, il est extrêmement dur en fait.
Ah ouais.
Faut savoir que l'œuf est tout dur. Alors ça permet de bien tamiser. Ça permet aussi de le travailler. L'œuf qui sort de la rogue hein, de l'esturgeon n'est pas vraiment mangeable en fait. Ça a pas de goût et c'est dur en fait, très ferme. D'où le travail du caviar qui doit se faire derrière.
Toi, Elliot, là, tu travailles donc pour Action. Tu fais quoi? Alors, ta journée, c'est contacter des grands restos, suivre les tendances, prendre rendez-vous. Est-ce que c'est facile d'avoir des rendez-vous?
Alors, facile d'avoir des rendez-vous. Généralement, quand on rentre avec un bac de truffes, on est plutôt bien reçu. Ça, c'est, on va directement mettre ça au clair.
Surtout quand on le sent comme ça, parce qu'il faut dire.
Voilà,
même s'il y a une petite résistance, hop, tu ouvres le bac.
Effectivement. Maintenant, une journée type, ça va être déjà la livraison de tous nos chefs, parce que savoir qu'on essaye d'être vraiment le plus réactif possible et d'apporter un service qui est à la hauteur des produits qu'on travaille.
C'est toi qui livres?
Ouais. Donc Eric ou moi, à savoir qu'on se partage vraiment à deux tout ce qui est même réception, on parlait tout à l'heure de réception des produits directement en douane, etc. On fait vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire de l'importation jusqu'à la distribution dans les cuisines des chefs. Et ça c'est important parce que ça nous permet d'avoir un lien et d'avoir vraiment une proximité avec nos chefs, de pouvoir voir les processus de création, discuter des prochains menus, etc.
Et ouais, parce que t'as en tant que cuisinier, t'as quand même une relation forte avec ton livreur, plus qu'avec le représentant. Donc quand c'est le même, c'est idéal.
C'est ça. En fait, on fait tout ce travail-là à la fois. Donc c'est sûr que c'est un peu plus demandeur. Mais au final, dans une journée, il va y avoir un nombre X de livraisons, on va dire, je sais pas, 5, 10, ça va dépendre en fonction des jours qui sont un peu plus chargés que d'autres ou plus, en fonction des périodes aussi. Et puis ensuite, ça va être des rendez-vous de dégustation, un petit peu à la manière de ce qu'on a fait là au final. On va cibler 3-4 produits maximum généralement, parce que c'est sûr que c'est des produits qui prennent du temps de préparation, de production. Il y a tout un savoir-faire expliqué derrière chaque produit, donc ça prend également du temps pour l'expliquer et pour faire connaître justement ce savoir-faire et cette particularité, cette typicité au chef, en plus de le faire déguster.
Donc tu vas amener, par exemple, on parlait des ormeaux tout à l'heure, tu vas dire qu'est-ce que ça tente de goûter des ormeaux. Tu vas leur amener, lui faire un petit speech sur qu'est-ce que c'est, comment ça se cuisine, et puis vous allez le cuisiner ensemble ou c'est...
Ça peut. Généralement, les produits sur lesquels on travaille, il y a beaucoup de produits sur lesquels on peut faire des dégustations, comme les sardines qu'on a en face de nous, comme les anchois, comme la ventrèche de thon qu'on a aussi ici, la poutargue, mettons. C'est des choses qui se dégustent très bien juste avec une planche, un couteau. On peut déjà faire une dégustation, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à la cuisson ou la préparation vraiment du produit. Donc c'est des choses qui se font facilement. Et puis ensuite, effectivement, les ormeaux, les choses un petit peu plus travaillées, on va vraiment prendre un petit peu plus de temps ensemble pour le cuisiner ou pour, même avec des chefs avec qui on travaille déjà, essayer de le déguster, puis faire un plat peut-être avec eux, échanger en fait autour de ce produit. Et puis derrière, c'est ça qui va déclencher, je pense.
Oui, puis nous, on n'est pas chef, hein, on fait que d'apporter les produits d'exception, mais les chefs, ce sont des artistes aussi, hein, donc ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de prendre du recul. C'est pour ça que c'est important de leur expliquer le produit et tout le processus de fabrication. Et puis, une chose aussi importante, c'est de former les équipes de salle, parce que le produit, vous pouvez avoir le meilleur produit, s'il n'est pas expliqué au client,
ça ne sert pas grand-chose. Merci en fait, de préciser ça, parce que c'est, ouais, c'est le message que tu veux apporter. Des fois, c'est un peu compliqué qu'ils passent de la cuisine à la salle. Et c'est très, très important d'expliquer au client l'origine du produit, qu'est-ce que c'est, pourquoi aussi est-ce qu'il va payer ce prix-là aussi.
Il faut que le rêve aille jusqu'à l'oreille du client.
Absolument.
Alors, s'il n'est pas partagé, ça ne sert pas à grand-chose.
Alors, comment vous faites pour avoir une meilleure communication avec la salle? Vous donnez des formations?
On fait des formations. Effectivement, oui. Ça fait partie du travail. Je ne sais pas si tu veux que
je... Alors, je vais juste passer le mot à Elliot pour ça. Elliot, c'est l'avantage de son ancien métier, qui est le monde du vin. Pour lui, assez facile d'expliquer, en fait, tout le processus de fabrication et puis de partager les saveurs et les goûts de façon simple.
Ouais, puis j'imagine, Elliot, que quand tu arrives et que tu dis à un resto, OK, on va faire une dégustation de caviar, je pense que tu as des volontaires.
C'est ça, il y a souvent des volontaires, effectivement, il y a souvent des grands sourires. C'est des choses qu'on fait de façon quasi systématique, en fait, quand on commence avec un restaurant, en tout cas, si on fait du service à table, vraiment service en salle. On n'est pas forcément au guéridon ou quoi, mais ça s'y apparente, en fait. On va périodiquement aller former les équipes en salle, puisque faut savoir qu'il y a aussi, malheureusement, un turnover en salle, et surtout de nos jours. Mais on va vraiment apporter ce service-là pour que la salle puisse expliquer la différence, comme tu le disais si bien, entre un beluga, un ossiètre, un cristal, quel est chaque affinage, quelle est chaque caractéristique aromatique du produit, comment est-ce qu'il doit se déguster, les différentes questions, par exemple, qui reviennent souvent, caviar égal esturgeon, oui, mais produit où, comment, etc. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit échanger en cuisine, mais aussi en salle, pour que ce soit véhiculé au client et que le client puisse vraiment vivre un moment spécial.
Les nouveaux restos dans lesquels tu vas, est-ce que je suppose que tu as un mode de sélection? Tu ne dois pas aller dans n'importe qui, il y a la belle province qui va t'appeler, tu ne vas pas y aller, on va dire. J'exagère, mais...
Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on a aussi des produits comme la pâte de truffe, comme l'huile de truffe, qui sont des produits beaucoup plus faciles à utiliser. On a été approché à plusieurs reprises par des franchises de gens qui font...
Une frite à la truffe, par exemple.
Une frite à la truffe, oui, qui souhaitent justement démocratiser certains produits, qui souhaitent l'utiliser, et on est sur des produits plutôt abordables. Ce sont des produits qu'on produit nous-mêmes, qu'on fait produire en France, mais ce sont des produits de qualité, mais ça c'est important aussi même.
Comme la pâte de truffe, tu peux nous expliquer la différence de prix qu'il y a entre la pâte de truffe et la truffe fraîche?
Alors en fait on n'est pas tout à fait sous les mêmes bases de truffe parfois, mais on utilise nous de la truffe française, ça c'est important. Et puis on a une pâte de truffe qui est faite exclusivement avec de la truffe, pas avec des champignons, souvent avec des restes de truffe, ou des truffes qui ne peuvent pas être vendues au chef parce qu'elles n'ont pas le visuel qu'on souhaiterait avoir.
Et puis parfois trop petite, trop biscornue,
trop grosse, parce que le chef veut pas tout grosse truffe non plus, donc ça nous permet aussi, puis parfois on a des truffes qui ont eu un peu mal de transport, comme on dit. Donc ça sert ceci à faire ce genre de produit-là. Et puis on a aussi d'autres conserves, comme des jus de truffes pour faire les sauces. On a des brisures de truffes. On a des produits qui servent à faire des plats qui sont pas toujours des plats qui coûtent relativement cher. Des plats qui sont plus abordables, en fait.
Et ça, c'est vous qui les fabriquez ?
Alors ça, ce sont des gens qui travaillent pour nous, hein, qui fabriquent en France. Mais c'est sous notre marque. C'était une demande de nos chefs. Le chef nous demandait de sélectionner des produits de plus en plus pour eux. On le fait de plus en plus.
C'est une sorte, acheter ta marque, c'est une sorte de signe de qualité ?
Oui, alors on n'a rien inventé. On demande tout simplement au chef ce qu'ils veulent avoir. On dit, voilà, qu'est-ce qui serait dans l'idéal pour toi dans une huile de truffe ? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi dans un jus de truffe ou dans une brisure ou dans une pâte ? Il dit, voilà, moi je voudrais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Je voudrais qu'elle soit coupée au couteau. Je voudrais qu'elle soit un peu plus grosse, qu'elle ait du goût, qu'elle ait telle couleur, telle saveur. Et en fait, on travaille tout simplement avec des gens en France qui nous font ces produits-là pour nous. Ça nous permet d'avoir un produit très bonne qualité.
Comment ça se passe alors quand tu lis les ouvertures de nouveaux restos et puis tu vas les voir comme ça ou tu...
Oui. Alors après, il y a aussi pas mal de bouche à oreille. Il y a aussi des gens, comme disait Eric, qui viennent vers nous par l'intermédiaire d'autres chefs qui cherchent certains produits. Voilà, la première chose, c'est un chef qui va demander à des confrères « Est-ce que tu sais où je pourrais trouver ça ? Telle qualité de truffe ? Est-ce que tu sais où je pourrais trouver telle qualité de produit ?» Donc c'est souvent ça.
Le bouche à oreille en restauration
de plus en
est
plus.
Extrêmement important.
Ouais, donc c'est vraiment ça, et c'est aussi, je pense, c'est vraiment là qu'on est vraiment content. C'est-à-dire que je pense que la qualité aujourd'hui de notre relation avec nos chefs nous permet d'avoir aussi beaucoup de belles recommandations. Et entre guillemets, le tri, si je peux dire ça vulgairement, se fait de facto, se fait tout seul. Mais pour rebondir sur ce que disait Eric, et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a autant de plaisir à aller dans des restaurants qui vont faire des grands menus dégustation avec des produits d'exception, qui vont y mettre un certain budget, que à travailler des charcuteries lyonnaises comme le Jésus, qui sont très accessibles. Enfin, moi, personnellement, j'en ai toujours à la maison. Mes amis, dès qu'ils ont vu arriver ce genre de charcuterie, se sont rués dessus pour aller faire des apéros, pour aller faire des choses comme ça.
Et ouais, parce qu'il faut dire une chose, c'est que vous vendez aussi au grand public.
Oui,
aussi.
Exactement, ouais. Effectivement. C'est tout nouveau, ouais.
Puis là, c'est vous qui livrez aussi, ou c'est, ça se
pareil,
passe comment ?
Même chose.
Tout pareil, ouais, même pareil. Service.
Donc,
à domicile.
Tu vas livrer à domicile toi-même, tiens,
c'est
voilà
ça.
Ton Jésus.
C'est ça, exactement.
Alors c'est important parce que souvent les gens nous posent des questions quand on livre. Parfois les gens posent. On sait qu'on est juste le livreur, d'ailleurs.
Ouais.
En général, on n'est pas habillé autrement que quelqu'un d'autre. Donc, les gens rigolent. Et puis, quand les gens posent des questions, on peut leur répondre, surtout. Donc, en fait, souvent, ils aiment ça. En fait. Ils posent des questions sur la provenance, sur comment c'est fabriqué, comment c'est produit. Donc, ça, c'est important. Ouais.
Puis on a souvent une clientèle d'habitués, au final, parce qu'ils y reviennent quand ils prennent goût à ce genre de produit. Par exemple, sur la gamme de charcuterie, aujourd'hui, on a le Jésus, mais on a 4-5 différentes salaisons, différentes charcuteries, avec chacune un profil très particulier. C'est un petit peu comme sur la gamme de caviar, en fait. On revient, pour moi, c'est un peu comme travailler une gamme de vin, pour revenir à mes expériences précédentes. On a vraiment chaque caviar à sa typicité, son aromatique, comme on l'aurait sur le vin avec un cépage différent. On va avoir des types d'esturgeons, des variétés différentes, et ça va vraiment faire toute la complexité, en fait, de nos produits.
Donc, le caviar que vous avez, il change, c'est ça que tu es en train de dire ? Ou c'est le caviar que vous avez, il reste à peu près toujours pareil ?
Alors, il y a une constance.
Il y a plusieurs catégories.
Il y a une constance, mais il y a différents. À l'intérieur de la gamme, on a une dizaine de caviars différents chez la maison Caviari. Et on a vraiment. Donc, l'ossiètre, par exemple, c'est un type d'esturgeon. Le beluga est un type d'esturgeon aussi. Et on va vraiment avoir tous ces caviars-là à l'année longue. Et chaque caviar, chaque type d'esturgeon, va proposer des tailles de grains. Différentes, des textures de grains différentes, des couleurs, des aromatiques différentes, et c'est là qu'on va vraiment pouvoir jouer en fonction des préférences de nos chefs, de nos clients, mais aussi sur un même menu et à l'année, on va changer en fonction des produits qui y sont associés, voilà, c'est là-dessus aussi.
Oui, puis on a des chefs qui ont aussi leur propre caviar, c'est-à-dire qu'ils ont un grain, une couleur qu'ils ont déterminé, sélectionné dès le départ. Ils ont leur propre caviar à eux.
Avec vous ?
Pour le restaurant, exactement, oui. Et en fait, dans l'année, on a un certain nombre de kilos pour eux qu'ils utilisent dans leur restaurant, mais ils savent que c'est pas vendu ailleurs, en fait. Tout le travail est dans l'affinage, justement.
Est-ce que tu peux nous dire un nom, toi, sur ça, ou c'est trop...
Oui, alors il y a des gens comme Prime Seafood, je sais pas si vous connaissez, sur Toronto, par exemple. Ils ont leur caviar à eux. Ils utilisent du cristal, mais ils utilisent aussi un ossiètre à eux, qui est leur produit, qui leur est dédié. Et puis parfois, on a des chefs qui veulent marier, vous savez, les couleurs, les saveurs. Mmh. Donc, ils veulent vraiment un produit particulier. On va avoir des assiettes gold ou des assiettes gros grains ou des assiettes qui sont avec des couleurs beaucoup plus jaunes.
Ils vont te voir, toi ou Elliot, puis disent j'ai une idée, je veux un caviar qui goûte comme ci, comme ça. Exactement. Et puis toi, tu vas dire ok, bah, je vais te le trouver.
Exactement. Alors, des fois, on peut pas, mais la sélection est faite directement par Caviarie à Paris. Et en fait, ils travaillent ce produit pour un chef spécifique.
Donc, ils s'y connaissent en caviar déjà avant d'arriver là. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent pour bien décrire leurs critères. Exactement. Et là, tu fais passer ça à Caviarie et Caviarie s'occupe de.
Exactement. C'est une grande maison de caviar. Hein. C'est une petite maison de caviar hein, qui est spécialisée dans les caviars pour les chefs. On vous retrouverait pas nos caviars à vendre. Partout, hein, ça c'est important. Nos caviars sont exclusivement sur les chefs. On peut trouver un petit peu. Si vous venez nous voir, on vous en vendra bien évidemment, mais l'idée c'est que ça reste quand même très exclusif, que ce soit seulement les chefs qui l'utilisent.
Depuis tout à l'heure, tu nous parles de Montréal, mais quand c'est à Toronto, parce que tu as une branche à Toronto, tu as une branche à Calgary, une branche à Vancouver, c'est ça ?
Oui, exactement. Il y a Québec.
Oui. Et une à Québec. Ok. Mais comment ça se passe ton avion, il y en a un qui atterrit à Montréal, mais il y en a un qui arrive à Toronto aussi.
Non, tout arrive à Montréal. Ah. Ouais, tout arrive à Montréal et après est dispatché sur différentes villes, tout simplement pour des regroupements alors documentaires, sanitaires, pour plein de raisons. Il y a des produits qui ne peuvent pas aller dans différentes provinces aussi, parce qu'il y a des provinces qui n'ont pas les mêmes réglementations.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples ?
Ben, un produit, par exemple, qui va arriver au Québec ne sera pas forcément admis en Ontario, tout simplement parce que ça ne se fait pas. Parce que les réglementations sanitaires ne sont pas les mêmes. Il y a des produits qui sont par contre acceptés en Ontario qui ne le sont pas au Québec aussi, ça marche dans les deux sens. Donc ça, il faut y faire attention. Donc non, tout arrive à Montréal, et après on envoie sur nos différents bureaux.
Est-ce que tu envisagerais, par exemple, d'importer des produits québécois qu'on ne trouverait pas nulle part ailleurs, les importer en France? Je parle par exemple des épices boréales. Un épice boréal, enfin, je pense au poivre des dunes ou quelque chose comme ça qui serait vraiment exceptionnel. Est-ce que tu envisagerais de l'importer en France et de le distribuer en France ?
Non, parce qu'en fait, on n'est pas structuré pour ça, c'est plus compliqué. Ça demande aussi encore des réglementations différentes, ça demande des permis. Par contre, on a parfois des commandes qui se font, des demandes hein, en France. Donc on travaille dessus, mais on demande directement aux producteurs qui parfois, eux, ont les permis pour pouvoir le faire. D'envoyer directement
sur quel
aux
produit,
clients.
Sur quel produit ?
Alors sur les épices boréales, justement.
Ah ouais,
ouais. On a des huiles, par exemple des huiles de homard qui sont produites en France, où ils vont utiliser le fameux poivre des dunes, qui est ramassé ici, au nord du Québec.
Qui n'est pas un poivre, qui est un bourgeon.
Exactement, mais qui s'appelle quand même le poivre des dunes. Mm-hmm. on a aussi des hibiscus, on a des produits comme ça qui partent un petit peu à l'étranger, mais on le fait via des gens qui savent faire. On ne peut pas rentrer dans ce genre de processus, déjà parce que ça demande du temps. Puis les réglementations changent, hein, donc il faut être structuré pour ça. Hein. On a parfois des chefs, par contre, qui travaillent au Canada, qui souhaiteraient emmener les produits du Québec en dehors de l'Hexagone. Alors peut-être qu'un jour on le fera, mais c'est compliqué quand même. Hein. Notamment, je vais vous donner un exemple d'un chef qui est parti au Qatar, par exemple, il y a quelques mois, qui dit même « j'aimerais bien que les produits du Québec me suivent ». Okay. Alors on y pense, hein, on le fera peut-être dans quelques temps, mais pour l'instant, ouais. On a déjà beaucoup de travail à faire ici.
Ouais, parce que tu nous disais que ça marchait bien, que l'hiver a été exceptionnel pour vous, il y a une grosse demande sur ce genre de produits.
On va donner un exemple, par exemple, simple d'un produit qui est arrivé au Québec, par exemple. On a un chef pendant Montréal en Lumière qui cherchait des petits rougets. Petits rougets, vous savez, avec les viscères à l'intérieur, parce que c'est important, le foie surtout pour faire les sauces. Ça, c'est un produit qu'on savait qu'il en rentrait sur le Canada par des poissonniers, par des grossistes. On a fait le choix de pas aller le chercher en France, on a fait le choix d'aller le chercher ici, parce qu'on connaît quand même du monde, et puis on finit par avoir quand même un réseau de gens qui travaillent avec nous régulièrement toute l'année. Donc, parfois, on va pas chercher le produit hein, à l'extérieur. Hein.
Mais vous avez trouvé du rouget ici ?
Oui, on a trouvé du rouget qui venait de France, mais qui venait par un autre importateur, distributeur, qui lui rentre le produit régulièrement, qui est habitué à faire venir ce produit, qui va avoir une fraîcheur exceptionnelle, et puis quand il y a eu le Montréal en Lumière, parce qu'on en parle quand même beaucoup, il y a eu quand même, je crois que c'est 25 chefs hein, qui sont...
50
50 chefs, oui, mmh. Quand même pour la plupart des chefs étoilés. Ils avaient des demandes très particulières, donc il a fallu courir un peu à travers la province du Québec pour trouver des produits. On a eu des demandes de, je sais pas comment on appelle ça, de courgettes particulières. On a eu des demandes, on a eu des demandes un peu drôles d'ailleurs.
Des choses sur lesquelles on n'est pas spécialisé, mais étant spécialisé sur des produits d'exception, on nous demande de trouver un peu cette exception.
Exactement. Donc, on a fait marcher nos raisons, mais on a trouvé, en fait.
Les têtes de bison, par exemple, ou quelque chose.
Mais je repense à l'épisode, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire, le phoque qui a été servi au boulevardier, a été servi avec le caviar, un ossiètre de la maison Caviari, et ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est effectivement ce genre de travail, ce genre de spontanéité, c'est notre quotidien, au final, et c'est ce qu'on aime.
On rappelle que le phoque a été mis sur le menu suite à notre intervention. Quand même.
Oui, bravo, bien joué, on est fiers de ça.
Ah, on est fiers de ça. Pas mal fiers.
Alors, merci beaucoup, messieurs. Alors, c'est une atmosphère un peu incroyable parce qu'on est le 4 avril. Alors, le 4 avril, si vous écoutez ça du Québec, vous savez qu'on a eu une grosse tempête de neige. On a eu 30-40 cm de neige. Et puis, donc, on est au Chien Fumant, super restaurant sur le plateau qui nous accueille pour cette interview. Et donc, on est dans le coin. Il y a une grande baie vitrée avec le blizzard qui souffle, la neige qui tombe du ciel, les arbres qui sont penchés. Et puis, il y a du caviar, des truffes sur la table. C'est un peu hors du temps comme expérience.
Je sais pas si j'ai remarqué, il y a une petite odeur de vanille aussi. Ça nous fait penser un peu à.
Pourtant, elle est sous vide.
Vacances. Oui, elle est sous vide, mais elle sent quand même. Hein.
Ah, c'est de vanille de Tahiti. Elle est de là-bas. Table, mais
ça exactement. On a l'impression d'être un petit peu au printemps, un petit peu au soleil, etc. Une vanille que moi j'aime beaucoup parce que quand on l'a fait goûter au chef, elle est différente des vanilles qu'on peut trouver sur le marché. Parce que c'est une vanille très florale. Donc elle est beaucoup plus féminine. Elle est très très fine. Et c'est drôle parce qu'elle est sous nos yeux, mais à travers le sac sous vide, on arrive à la sentir.
Il y a même pas besoin de mettre le nez dessus. Là. Ça se sent très très fort. Vous commencez à explorer l'ouest.
Oui.
Parce que vous avez ouvert Calgary il n'y a pas longtemps, je pense.
Oui, exactement. Oui. Alors, principalement sur la truffe. Hein. Quand on ouvre dans une ville, on y va toujours doucement. Vancouver, par exemple, ça fait 3 ans qu'on a ouvert le bureau, mais on a commencé par le caviar exclusivement. Ça a mis beaucoup de temps, tout simplement parce que du caviar, il y en a déjà là-bas. Hein. Il y a déjà des marques connues et reconnues. Donc il fallait apporter un service, il fallait apporter d'autres caviars. Et là, cette année, on a continué avec la truffe. Donc on y va par étapes. On n'y va jamais sur la gamme de produits en totalité, parce que ce serait trop compliqué.
Donc tu commences par la truffe, et après, ou le caviar, des deux produits en tout cas, celui où il y a le plus de valeur ajoutée, je suppose.
Exactement,
où il y a le plus d'expertise, plus de demandes.
Exactement. Par exemple, à Vancouver, il y a déjà beaucoup de marques, on a déjà beaucoup de confrères qui vendent des caviars là-bas. Donc il fallait leur apporter un caviar différent, avec justement une maturation différente, avec des espèces autres que ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc on y va souvent par étapes.
Et là, tu as ouvert Calgary récemment, plus récemment encore.
Là, c'est que la truffe.
Que la truffe.
Que la truffe.
Pour l'instant.
Pour l'instant. On a des demandes en charcuterie, notamment là-bas.
Ah oui.
Ouais, c'est drôle.
Ils sont connaisseurs en charcuterie.
Ils aiment ça. Ou peut-être qu'ils ont marre de la charcuterie locale. Ils veulent peut-être autre chose.
Peut-être qu'il
n'y
en a pas.
Tout simplement parce qu'ils mangent de la viande quand même là-bas.
Oui, il y a quand même beaucoup de viande, mais est-ce qu'ils font de la charcuterie avec?
Je sais pas.
Probablement.
De toute façon, je suppose que. Alors, comment? Ouais, je sais que c'est un peu long, mais j'ai une question. Comment tu vas chercher ton personnel? Qu'est-ce que tu recherches chez les gens? Là, t'as Elliot, il a un gros actif vin, donc il connaît tous les aromates, il sait comment vendre, il sait comment approcher les chefs. Est-ce que tu vas chercher ça chez chaque personne?
Oui, c'est important parce qu'il faut bien expliquer les produits. Hein. Donc, il faut avoir des gens qui connaissent bien le terroir, la fabrication. Si on veut pas faire partager notre passion, il faut avoir des gens passionnés aussi. Donc ça, c'est essentiel. Toute l'équipe sont des gens qui aiment manger, en fait, à la base. Hein. Je crois que c'est le... Il n'y a pas de mystère. Hein. Ce sont des passionnés. Et puis, c'est technique aussi, parfois. Hein, parce qu'il y a des produits, on n'en a pas parlé tout de suite, là, du sashimi, des anchois, etc. Mais ce sont des produits très techniques, en fait. Hein. On pense que c'est simple comme ça. Mais quand on veut, par exemple, avoir de la conservation sur un produit où il n'y a pas de produit de conservation dedans... Il faut travailler sur la technique de production, donc c'est pas toujours facile non plus. Et ça, faut pouvoir l'expliquer aux clients, hein. C'est important. Donc il faut des gens qui connaissent un peu quand même, pas un peu d'ailleurs, qui connaissent bien le produit en fait. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui viennent vers nous aussi. Parce que c'est comme ça que l'équipe aussi, même si on reste une petite équipe, des gens passionnés tout simplement.
Une équipe de combien alors à travers le Canada?
On n'est pas beaucoup, on est 10 personnes à peu près. On a quand même aussi des gens qui livrent aussi sur... sur Toronto, sur Montréal, qui nous aident. On peut pas tout faire. Donc on a un peu de tout, mais même dans le livreur, il faut que ce soit des gens qui connaissent le produit, parce que le chef a posé des questions hein, quand le produit arrive. Donc il faut que la personne connaisse le produit, c'est essentiel.
Ouais, surtout même rien que la truffe, vous la pesez, j'imagine.
C'est exactement. Et puis une chose qui est importante, c'est quand on se promène avec un bac de truffe, on a 5, 6, 10, 12 000 dollars avec nous. Donc, ce sont des sommes importantes. Mmh. Il faut que ce soit. Ce sont des produits qui peuvent être extrêmement volés. Hein. On a eu le cas cette année avec des vols. Donc il faut faire extrêmement attention. Oui, alors souvent ce sont pendant les vols, ne se sont pas passés ici, ils se sont passés en France. Quand les produits s'en vont vers les différents processus de transport, eh ben, il y a malheureusement des gens qui profitaient de ça pour récupérer nos produits. Ouais.
Merci pour tout, merci pour votre temps.
Merci pour votre temps, merci pour la belle conversation. Merci aux chiens fumants qui nous accueillent aujourd'hui. Merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. Tu peux regarder cette vidéo sur YouTube, tu peux nous soutenir sur Patreon et tu peux suivre le podcast sur Instagram @onestdanslejus. Merci, restez dans le jus. Ciao.
Ciao, ciao.
Merci à vous.